Bonjour à tous. Que nous puissions encore par la grâce de Dieu de nous réunir ensemble, hein, à distance, hein, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Mais on peut rendre grâce au Seigneur que nous puissions quand même avoir un lieu, un moment encore pour nous trouver autour de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous comptons faire à l'instant, maintenant. Je vous ai envoyé par mail, hein, ce document pour essayer d'illustrer un peu le propos que nous allons avoir ensemble ce soir au sujet de ce psaume 42 des fils de Corée. Oui, j'ai mis un diagramme, hein, un peu pour illustrer juste, hein, comment, en tant qu'être humain, les luttes internes qui réagissent au sein de nous-mêmes, dans nos propres cœurs, face aux pressions de la vie. Et donc, qui d'entre nous n'ont pas vécu à des moments intenses, hein, où nous sommes amenés à prendre des décisions importantes pour l'avenir, ça nous met dans des pressions pas possibles. Quand nos employeurs nous demandent d'atteindre des objectifs pour le mois, pour l'année, combien ça pèse et nous touche nos émotions, notre être entier pour pouvoir affronter de telles réalités. Pensons l'incertitude qui peut être devant nous pour l'avenir, soit de nous-mêmes, de nos enfants, pour notre santé, et que sais-je. C'est pour cela que je vous ai proposé pour ce soir ce psaume. Ce psaume qui nous invite à chacun de nous pour nous amener à voir, à scruter ce qui est au-dedans de nous face à ces pressions. Je peux résumer juste les luttes entre les pensées et les émotions quand nous sommes sous pression. Et le psalmiste a vécu de tels moments dans sa vie. Et en ce sens, nous regardons un peu de près ce psaume pour tirer encouragement et enseignement qui peut être utile pour nous aujourd'hui aussi face à des circonstances comme nous venons d'évoquer tout à l'heure. J'espère que vous avez votre Bible ouverte devant vous, le psaume 42. Nous n'allons pas le lire, je vous ai donné le temps de pouvoir lire, il n'est pas long. Et j'aimerais juste, déjà pour le point grand 1 que je vous ai donné, c'est intéressant de voir les circonstances dans lesquelles a vécu le psalmiste. On peut résumer en un mot que son âme est en détresse. C'est quelqu'un qui est troublé, perdu, on peut dire découragé, vu sa situation. Et j'essaie de décrire dans le document que je vous ai envoyé, ces situations, on peut le regrouper de deux manières. D'abord, vu de l'intérieur. Vu de l'intérieur, il est dans une tristesse profonde. C'est le premier mot qui a rempli ici au verset 4, il est dans une tristesse profonde. Le verset 4 nous dit, « Mes larmes sont mes nourritures jour et nuit. » C'est imagé, mais ça nous illustre, hein, les grandes détresses dans lesquelles il se trouve. Deuxième point, de l'intérieur, on voit qu'il est abattu. Je vous ai mis le verset 6 et verset 12, hein, ou ce refrain de ce cantique, si on peut dire, hein. « Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi ?» Voyez, verset 6, la même chose au verset 12, la fin de ce psaume. Et au verset 7, hein, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Donc il est abattu, hein, ce psalmiste. Troisième point, donc le mot ici, c'est « il est abattu ». Il a un sentiment intérieur, voilà le troisième mot qui a complété, d'être loin de Dieu. Et ce sentiment, il exprime de deux manières que nous voyons dans le texte. D'abord, par une métaphore, imaginez que vous êtes dans un désert et assoiffé sous la chaleur horrible. Et c'est l'image qu'il utilise ici. Donc, cet sentiment intérieur, il illustre donc par la soif intense de communion avec Dieu. Donc, par sa soif, c'est le mot qui a complété. Intense de communion avec Dieu, à l'image d'une biche en quête de courant d'eau dans un lieu chaud et aride. Vous voyez le verset 2 ? Comme, c'est une comparaison, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, parlant de Dieu. Mais ce sentiment intérieur d'être loin de Dieu, il exprime aussi par un désir profond. Ça, c'est le point qui a complété, de retourner à Jérusalem pour participer au culte dans le temple. Des commentateurs émettent plusieurs hypothèses, disant que peut-être le psalmiste, il est en exil, c'est le moment où il était à Babylone. Bon, peu importe, le passage ne nous dit pas exactement les situations, mais on voit qu'il y a un désir profond de retourner, une nostalgie si vous voulez, de participer au culte, dans le temple. Vous voyez, au verset 3, il dit « Quand irai-je devant la face de Dieu ?» Et pour le peuple juif, la face de Dieu, on le rencontre au temple. Au verset 5, « Je me rappelle, donc des souvenirs avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. » C'est le contexte d'un pèlerinage. Donc, vous voyez, il est lié loin de toutes ces circonstances, de ces habitudes pour un juif pieux. Et ça, c'est l'expression de son désir profond hein, qu'il manifeste qu'il est loin de Dieu. Et l'autre point, il a le sentiment d'être abandonné par Dieu. Verset 10, « Je dis à Dieu, pourquoi m'oublies-tu ? Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? » Vous voyez, il a le sentiment d'être abandonné par Dieu. Ça, c'est le regard tourné vers l'intérieur. Mais de l'extérieur, la pression est forte aussi. De l'extérieur, il subit les moqueries de ses adversaires qui le fait croire qu'il est abandonné de Dieu. Donc, nous lisons donc à deux reprises, hein, il répète au verset 4, au verset 11, « Mais où est ton Dieu ?» hein, quand on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» C'est la moquerie. Verset 11, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Ça, c'est la vue extérieure de ce qu'il vit, le psalmiste, hein, de ce qu'il décrit à travers ce psaume. Et nous allons regarder le deuxième point maintenant, les états d'âme de ce psalmiste. Du verset 2 à 6, vous l'avez lu, on constate que ce qu'il ressent de par ses émotions ne s'accorde pas avec sa théologie. De ce qu'il ressent dans les émotions, ce n'est pas ce qu'il sait de Dieu. Hein, au verset 6, hein, il parle bien de « mon Dieu ». Il parle bien de mon salut. D'où, au lieu d'écouter ses émotions, il parle à son âme. Donc le mot qui manque ici, il parle à son âme en l'exhortant à espérer en Dieu. Donc vous voyez, il essaie de contrebalancer les émotions en le combattant pas dans ses pensées, en le tournant vers Dieu. Du verset 7 au 8, nous voyons, et c'est clair, c'est pour ça que je vous ai donné, c'est un peu le diagramme, c'est comme un yo-yo, haut, bas, tantôt vers Dieu, tantôt s'éloigner de Dieu. Donc le psalmiste rechute à nouveau. Il se retrouve sous le contrôle de ses émotions. Voilà le mot qui manque, contrôle de ses émotions. Et vous voyez, il utilise une deuxième métaphore maintenant. il se met à la situation de quelqu'un qui est noyé, submergé. Et c'est un peu le langage de Jonas, rappelez-vous aussi, dans le ventre du poisson, hein, où il dit, nous lisons dans Jonas 2,4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Et alors, que fait le psalmiste pour sortir de ces émotions qui prennent le dessus? Pour sortir de l'emprise de ses émotions, il parle à son âme des bienfaits de Dieu à son égard. Voilà le mot qui manque, de Dieu à son égard, verset 9. Le jour, tu m'accordes ta grâce. C'est ce que nous lisons au verset 9. Mais il parle, voilà le mot qui manque, avec Dieu par la prière. Verset 9, la deuxième partie, « J'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Vous voyez, Dieu fait partie un peu de son équation, si je peux dire. Il est inclus dans sa vie maintenant. Qu'est-ce qu'on observe? On a l'impression qu'il n'a pas eu la victoire sur l'emprise de ses émotions, je dirais. Oui, nous voyons que la tension... Ça, c'est le mot qu'il faut mettre après observation. L'attention est toujours d'actualité entre ce qu'il ressent par ses émotions et ce qu'il sait de Dieu. Vous voyez bien le verset 6 et le verset 12. Hein. Au début, verset 6, il finit au verset 12. N'empêche que ce sont les refrains, si je peux dire aussi, de ce psaume qui est chanté. Et deuxième chose, nous voyons que sa foi, ou bien sa confiance en Dieu grandit. Ça, c'est le deuxième point. Même si les circonstances restent insensées. Pourquoi on peut dire ça? Parce que les émotions ont maintenant l'appui de solides convictions, je dirais théologiques. Il inclut Dieu maintenant dans son raisonnement, dans sa manière de voir. Et comment peut-on dire cela? Il y a trois points que je vous ai mis pour montrer qu'il y a quand même, malgré le yo-yo, haut, bas, loin de Dieu, proche de Dieu, découragé, etc. On voit petit a au verset 5, hein, quand il dit « je me souviens » ou dans d'autres traductions « je me rappelle ». Ici, la nostalgie des choses qui n'étaient plus à sa portée. Imaginez qu'il est loin du pays, en exil. Hein, toutes ces choses, il n'a plus accès. Donc le mot ici n'était plus donc à sa portée. Et ça fait place à cette expression verset 7 « à toi que je pense ». C'est-à-dire que dans son esprit, Dieu est toujours accessible. Et ça, c'est une vérité importante. Importante. Et c'est qui lui l'a remis d'aplomb, si je pourrais dire, en quelque sorte. Le point petit b au verset 8, les eaux profondes sont perçues comme tes ondées. J'ai souligné bien tes ondées, tes vagues, tes flots. Ça souligne ou nous laisse entendre, hein, que Dieu en était responsable de ce qui arrive, il jette l'accusation ou la faute à Dieu. Et cette expression donc fait place à l'assurance profonde de la présence de Dieu. Au verset 9, « Je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Et le petit c, le fort contraste dans l'émotion du jour et de la nuit entre le verset 4 au début du psaume et le verset 9. Vous voyez, au verset 4, hein, nous lisons « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». J'attire votre attention sur les jours et la nuit et les contextes qu'il met en contraste au verset 4, « Mes larmes ». Et au verset 9, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce ». Vous voyez le changement vraiment dans ses pensées. Et la nuit, je chantais ses louanges. Donc, même s'il rechute des hauts, des bas, on constate qu'il y a quelque chose qui est mis en place dans ses pensées à l'idée de voir Dieu dans cette situation dans laquelle il se trouve. Donc, nous sommes arrivés donc à voir que dans les pensées de ce psalmiste, il y a quelque chose, des convictions solides, maintenant qui s'installent, même si d'apparence, il rechute, il remonte, mais on voit la notion de Dieu, l'idée sur Dieu, le fait de penser à Dieu, c'est quelque chose qui est maintenant installé de plus petit à petit, si je peux dire. Qu'est-ce que nous pouvons tirer maintenant comme application pour nous aujourd'hui à travers ce psaume 3, grand 3, donc l'application. Ce que je veux dire, avant de compléter les éléments qui sont écrits, les trois points, nous sommes donc, en résumé, dans des luttes intérieures entre ce que nous ressentons, les luttes entre les émotions et nos pensées. Et ce qu'il faut tirer maintenant et retenir dans notre esprit, c'est que nous avons un allié dans cette lutte, dans cette tension, c'est nos pensées. Nos pensées vont nous servir d'un allié pour combattre nos émotions. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici premièrement, nos émotions sont incontrôlables. Mais nos pensées, nous pouvons le contrôler par la vérité de la parole de Dieu que nous devons prêcher à nous-mêmes. Donc vous voyez, dans cette lutte entre les émotions, ce que nous ressentons, et nos pensées, c'est lui qui nous sert d'allié pour pouvoir, à travers nos pensées, contrôler et avoir la maîtrise sur nos émotions. Parce que nos émotions, nous ne pouvons pas les contrôler, ils sont incontrôlables. Donc ici, nos émotions sont incontrôlables, mais nos pensées, nous pouvons les contrôler par la vérité de la parole de Dieu que nous devons prêcher à nous-mêmes. Permettez-moi d'utiliser un peu l'adage ou le dicton chinois que peut-être plusieurs parmi vous le savent. Il disait que je ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de ma tête. Mais je peux empêcher aux oiseaux de faire leur nid sur ma tête. Pour vous dire qu'on a le contrôle de nos pensées. Et c'est ça, c'est un atout indispensable qui nous sert pour pouvoir avoir le contrôle sur nos émotions. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid dans ma tête, sur ma tête. Faites allusion aux pensées. Donc ici, c'est ce que Paul nous dit à faire au sujet des pensées en Philippiens 4:8, n'est-ce pas? Ce verset que nous connaissons. Au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très important, ce point. Donc, nous combattons nos émotions par nos pensées, quand nos pensées sont contrôlées par la parole de Dieu. Deuxième chose, même si nos états d'âme sont changeants, instables, tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt portés vers Dieu, tantôt abattus, les fils de Corée nous apprennent à travers ce psaume que dans de tels états d'âme, nous pouvons puiser, voilà le mot qui manque, puiser du réconfort malgré nos luttes contre peut-être le désespoir, contre l'abattement, contre le sentiment d'abandon de Dieu, en se rappelant de la présence de Dieu avec nous. Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Matthieu 28:20. Il a prié le Père aussi avant de quitter la terre en disant à ses disciples, je prie pour vous, et il va envoyer le Consolateur en parlant de son Père et qui demeure éternellement avec vous. Ça, c'est notre atout. Ça, c'est notre avantage. Et ça, c'est ce dont nous avons à notre disposition à chacun en tant que croyant dans ces luttes que nous menons chaque jour. Et troisième point, nous devons apprendre à connaître nos états d'âme et lutter, ça c'est le mot qu'il faut mettre là, lutter contre, avec la parole de Dieu, pour les contrôler. C'est ce que j'ai dit autrement un peu dans le point numéro 1. Mais comment? C'est lui parler au lieu de l'écouter. Lui parler au lieu de l'écouter. Et j'ai cité quelques exemples que j'aimerais bien lire avec vous. Hein, des hommes de la Bible qui savaient parler à leurs âmes, qui savaient bousculer leur âme et qui savaient diriger leur âme et leur porter à écouter les promesses et la vérité de la parole de Dieu. Nous avons psaume 42, verset 6 à 12, c'est l'objet de notre étude, et pour montrer d'un autre aspect que, en fin de compte, ici, les fils de Corée nous en montrent comment ils parlent à leur âme pour qu'ils aient la victoire là-dessus. Donc, ils prêchent à leur âme, ils le parlent au lieu d'écouter les émotions qui l'envahit. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Et vous voyez, maintenant il dit, espère en Dieu, il parle à lui-même, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il met la vérité sur Dieu pour combattre les émotions et ce qu'il ressent. Verset 12, la même chose. Jérémie, Lamentation 3, 21 à 24, pareil, c'est des hommes de Dieu traversant des épreuves difficiles et qui ont su bousculer leur âme et ont trouvé la victoire vis-à-vis de leurs émotions. Jérémie, Lamentation 3, 21 à 24, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Vous voyez la détermination, ce que je veux. Il ne se laisse plus abattre par les émotions, mais je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Vous voyez? Bousculer, combattre nos émotions en parlant à notre âme de la promesse de Dieu, de la véracité et de la vérité sur Dieu. Habakkuk aussi, en Habakkuk 3.18, prend cette décision. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Job, qui était l'homme qui a souffert le plus dans l'histoire de la Bible, dans ce monde, et nous lisons aussi, « Mon pied s'est attaché à ses pas ». J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné, malgré ce qu'il a vécu. Il a décidé de suivre comme un alpiniste suit un peu les guides sur une montée dans la montagne, et il a suivi aussi la voix de Dieu dans sa parole, ses commandements. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et je ne peux pas oublier la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémané, son corps est meurtri jusqu'à suer des gros mots de sang. Et dans son âme, il était triste jusqu'à la mort, nous lisons dans Matthieu 26, 38 à 46. Il éprouvait des angoisses et pourtant, il a pu dire, parce que Dieu, il savait sa présence dans cette situation, par trois fois, il répandait son âme devant le Père, « Si tu voulais que cette coupe s'éloigne de moi, mais il ne succombe pas. Mais il a accepté que la volonté de Dieu soit faite. » Donc, laissons ces exemples nous aider et pour pouvoir surmonter les luttes quand ce moment arrive où nous avons des luttes au-dedans entre ce que nous ressentons et ce que nous savons dans la parole de Dieu, et contrôlant nos émotions en les combattant par nos pensées, et nos pensées changées, nourries par la vérité de la parole de Dieu. Je vous encourage de considérer ces choses et d'y penser. Vous savez, l'âme, c'est quelque chose de difficile à définir, mais par contre, c'est facile à en prendre soin. Et je vous encourage de prendre soin de votre âme dans les moments difficiles, comme des moments que nous traversons actuellement. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde cette semaine et gardons nos pensées focalisées dans la personne de notre Seigneur. Je vous souhaite une bonne soirée et dans le Seigneur. Prions les uns pour les autres, dans chacun des divers besoins, que vous savez qui sont donnés par WhatsApp ou par mail, et que tenons nos liens dans la prière les uns avec les autres auprès du Seigneur du trône de la grâce. Merci et bonsoir, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ah, il s'est arrêté déjà?
T'as pas cliqué.
Non, il s'est arrêté tout seul.
Non, ça continue.
Ah, oui.